Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à la librairie Mola ce soir. On a la grande chance et la joie de recevoir deux des auteurs du présent livre, donc François Godichaud et Pierre Salmon, que je vais présenter bientôt, qui ont coécrit avec Mercedes Yusta ce gros livre, La guerre d'Espagne, 36-39, La démocratie assassinée, aux éditions Talendier, paru tout récemment. 500 pages, mais 400 pages d'écriture. Le reste, c'est les notes et la bibliographie, ce qui reste quand même un copieux récit, mais je vais y revenir. Un livre qui pourrait se lire quasiment d'une traite, tellement il est en même temps dense et bien écrit. Alors, François Godichaud, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, voisin, et vous avez publié une quinzaine d'ouvrages qu'on ne va pas tous présenter, pour, sinon on n'aurait plus le temps pour le reste, mais dont les mots de la guerre d'Espagne en 2003, la guerre d'Espagne, République et Révolution en Catalogne, 1936-39, et puis plus récemment en espagnol, un grand livre sur l'histoire du franquisme. Donc vous connaissez très bien le sujet. On est ce soir accompagné par Pierre Salmon, qui lui est maître de conférence en histoire à l'École normale supérieure et qui vient de publier un livre novateur qui s'intitule « Un antifascisme de combat, armée l'Espagne révolutionnaire 36-39 », publié en 2024. Et Mercedes Yusta, qui n'est pas là mais qui a participé au livre, est professeur d'histoire à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et a publié de nombreux travaux en français, en anglais, en espagnol, et entre autres, La résistance à l'épreuve du genre avec Laurent Douzou en 2022. Alors je précise pour l'information, moi je suis Nicolas Patin, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, avec un petit regret qui est qu'on a un collègue spécialiste qui s'appelle Aubin Gonzalez et qui aurait pu officier ce soir, mais malheureusement il y a des problèmes d'accessibilité, donc il n'a pas pu intervenir ce soir, donc je me charge de ça, mais on pense bien fort à lui car il aurait eu des belles choses à nous dire, c'est sûr, lui qui est spécialiste des exilés espagnols. Alors, on est ensemble pendant un peu moins d'une heure, 55 minutes. On a du temps pour évoquer un grand nombre d'informations qui sont dans ce livre-là et aussi d'aspects qui sont polémiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir du temps pour les discuter, les nourrir. Mais je vais commencer avant ça par une question toute bête. Pourquoi à ce moment-là, en dehors des 90 ans peut-être, du début de la guerre d'Espagne, pourquoi ce livre à ce moment-là, quand vous dites, par exemple, quand vous écrivez page 10, il était temps de tout reprendre. Donc, allez-y, avec plaisir.
Alors, bonjour, merci pour cette présentation, merci pour votre présence. Alors c'est vrai que ça a été une commande de Talendier, cet ouvrage, mais aussi ça répondait de notre côté, je vais y revenir, à une envie, à un besoin en tout cas, parce que depuis les années 90, l'historiographie s'était énormément renouvelée, en Espagne notamment. Mais en France, il n'y avait pas eu de synthèse qui avait repris ces différentes historiographies, sinon un ouvrage de Bartolomé Benassar qui était pas du tout satisfaisant à certains égards de notre point de vue, et quelques ouvrages collectifs. Donc on a tâché de retrouver un moyen de remettre, il nous semblait, de remettre tous ces récits, toutes ces synthèses, et parfois même des monographies sur des régions spécifiques de l'Espagne, dans un seul et même ouvrage. Donc ça, ça a été un peu l'objectif, et puis aussi ça répondait d'un autre côté à un événement sur lequel on reviendra peut-être à la fin de ces échanges, de la publication d'une traduction en fait d'un ouvrage qui était totalement décrédibilisé en Espagne, mais qui presque 20 ans plus tard a été traduit en France par un éditeur complotiste et d'extrême droite sur la guerre d'Espagne, et ce qui s'appelait Les mythes de la guerre d'Espagne, et qui n'était pas un ouvrage d'histoire, un ouvrage qui parlait d'histoire, mais qui reprenait, si vous voulez, de la propagande franquiste, voire du régime franquiste, et voilà, qui encore faisait un petit peu son sel. Et on s'est dit, voilà, il y a un problème, parce qu'on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'ouvrage qui était disponible, et en rentrant dans les librairies, les libraires font ce qu'ils ont, et parfois sans savoir, même pouvait proposer cet ouvrage, donc on s'est dit qu'il était important peut-être de travailler une synthèse. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'on a été contacté par Judith Simoni, qu'on salue au passage et qu'on remercie, qui nous a dit bon, il faudrait faire un ouvrage. Donc on s'est mis à trois, petit à petit on a fait équipe, et puis je le dis maintenant, ça a été un ouvrage qu'on... C'est pas une somme de trois parties. On est arrivé chacun avec notre expertise, mais on a vraiment écrit à trois. Ça a été un ouvrage hyper stimulant, très agréable, très fluide. Évidemment, il y a eu des moments de pression, de travail, mais à chaque fois, ça s'est toujours très, très bien passé. Et puis surtout, si je dis qu'on a travaillé ensemble, c'est au-delà des détails sur les boucles WhatsApp, les appels, les visios, les échanges qu'on a eus à nombreuses reprises, c'est que En écrivant, en échangeant, en se relisant, en réécrivant les chapitres des uns et des autres, on est arrivé à un résultat qu'on ne pensait pas possible au départ. On s'est posé des nouvelles questions en écrivant. On est arrivé avec des nouveaux problèmes et cette problématique, les angles d'approche de ce travail se sont affinés, ont changé. Et en ça, ça a été un ouvrage aussi et une entreprise très, très intéressante de notre point de vue.
Donc c'était, j'avais cette question de comment on fait pour écrire un livre comme ça. Alors il y a un cahier central en couleur qui est tout à fait intéressant. Il y a pas mal de documents aussi en noir et blanc dans le texte. Et vous venez de répondre. Alors vous n'êtes pas réparti les chapitres. Hein, vous avez vraiment fait circuler les textes, amendé, ou vous avez quand même un petit peu réparti par vos domaines de spécialité
Alors merci beaucoup d'abord pour commencer. Et merci à vous d'être ici. Bonsoir. En fait, au départ, on avait un plan avec une première répartition des chapitres en fonction de nos spécialités. Il se trouve que nos spécialités se complètent très bien. Moi, j'étais plutôt fort sur la République en elle-même et le camp républicain. Mercedes est plutôt spécialiste du camp franquiste et de l'après-guerre. Et Pierre est très fort sur les questions internationales, les armes, la solidarité, etc. Donc on se complète très bien. Et on a eu un dispositif consistant à livrer chacun une première version avec un associé à un des deux autres pour une première, un premier travail de réécriture et ensuite un troisième, le troisième qui vient lisser là-dessus. Alors finalement, on ne l'a pas fait aussi rigoureusement parce que des fois, il y a des moments où il faut aller plus vite, etc. Mais ce que dit Pierre est vrai. On a eu le sentiment d'apprendre en écrivant et d'apprendre des autres. Parce que synthétiser des centaines et des centaines d'ouvrages, c'est très compliqué. On a un nombre de signes limité et ça risque toujours d'être un pudding assez difficile à ingérer. Et puis même si on s'adresse à des amis historiens, il faut qu'eux, non seulement le comprennent, mais le trouvent fluide. Et c'est là-dessus que beaucoup de choses se sont jouées. C'est-à-dire que chacun fait un effort terrible sur lui-même pour essayer d'être compréhensible, et puis les autres vérifient. Non, là, je n'ai pas compris. Là, tu reformules, etc. Et comme il y a de la confiance entre nous, et je pense que c'est ça le secret aussi, il y a de la confiance, il y a de l'amitié, ça permet de se dire les choses. Ça permet quelquefois d'aller vite et de corriger des phrases. Voilà. Et finalement, c'est vraiment une écriture à six mains. Et ça, pour nous, ça a été extrêmement agréable.
Alors, ce qui est que, je précise, je suis auteur talentueux, c'est pas pour ça que je vais faire la pub intégrale, mais c'est vrai qu'à la lecture, on sent pas, comme il peut y avoir dans certains livres collectifs universitaires, des dénivelés complets d'écriture. Et à titre personnel, moi, je suis pas... Alors évidemment, je suis enseignant d'histoire, donc j'ai lu quelques trucs. Hein, évidemment, j'ai lu Orwell, j'ai même lu Lydie Selver, d'ailleurs, dans un temps, donc j'ai lu des choses, hein, mais j'ai appris énormément de choses et cette écriture, on la voit bien. Alors, ça, c'est le processus de création du livre. Si on rentre dans le livre en lui-même, ce qui est intéressant, c'est la chronologie sur la jaquette, enfin sur la couverture, 36-39. Et en fait, le livre ne commence pas du tout en 36-39, il commence en 31. Ce qui fait que pour quelqu'un comme moi qui connaît un peu la guerre d'Espagne, mais sans vraiment la connaître, j'arrivais avec cette idée de bon, 36, le coup d'État, ce qui se passe avant, c'est flou. Alors, la première question, c'est ça, c'est vous montrer qu'en fait, il y a un processus très long ou assez long de moyen terme qui commence en 1931 et que le coup d'État n'est pas du tout un genre d'accident qui serait lié au contexte très récent du Front populaire en février 36, hein, mais que dès 31, il y a vraiment, vous le dites, hein, que la guerre civile et le coup d'État sont le produit d'attaques contre-révolutionnaires et antidémocratiques savamment orchestrées. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette genèse, hein, qu'on connaît finalement moins bien que le déclenchement très récent des événements juste en 36, quoi.
Oui, merci pour cette question. Alors effectivement, les dates sur la couverture ne sont pas les dates du livre. Bon, ça fait une première surprise, c'est pas mal, les trucs avec des surprises dedans. Et on commence avec le début d'un phénomène qu'on a appelé fascisation. Un phénomène de fascisation, c'est-à-dire un processus à travers lequel s'opère une reconfiguration de l'espace politique, et en particulier de l'espace politique des droites, autour une reconfiguration autour d'un ennemi intérieur commun, la révolution, et une reconfiguration qui met à l'ordre du jour la violence politique comme axe central de l'intervention politique. Ce processus de fascisation commence dès le printemps 1931 contre la proclamation de la Seconde République, qui intervient le 14 avril 1931. Dès le 14 après-midi, des personnages très importants du personnel politique monarchique et proche de l'Église se réunissent au siège d'un journal qui s'appelle El Debate, qui est central dans l'opinion publique espagnole, et commencent à réfléchir sur, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va faire ? Et par la suite, dans les semaines et les mois qui suivent, une double stratégie commence à se faire jour, qui s'affirme au fil des ans, qui combine à la fois une stratégie électorale, la formation d'une grande coalition de partis qui va s'appeler la CEDA, la Confédération espagnole des droits autonomes, qui, alliée à d'autres partis, remporte les élections en 1933, mais aussi un autre fer au feu, qui est celui de l'agitation contre-révolutionnaire, la violence, fomenter le désordre et exercer une énorme pression sur cette jeune République qui, au départ, est un projet, non seulement pour saboter ce projet, pour qu'il n'arrive pas à se réaliser, et aussi pour lui enjoindre d'être une République d'ordre. Il faut qu'elle soit une République d'ordre, d'ordre social, ou sinon, on s'en débarrasse. Et avec une première tentative de coup d'État en 1932, qui est un ratage absolu, et puis un dispositif beaucoup plus sérieux, beaucoup plus construit après cela, ils apprennent de leurs erreurs, qui en plus apprend de ce qui se passe dans les pays étrangers, en Allemagne, en Autriche, en France, et qui, dès 1935 d'ailleurs, s'appuie sur de l'aide étrangère, en particulier en Italie, une aide pour apprendre à faire de la guérilla urbaine, apprendre à transformer des conflits sociaux en émeutes, etc., et déjà des tentatives pour signer des contrats pour des armes pour le futur coup d'État.
Alors, dans cette... voilà, on voyait que la chronologie qu'on croit évidente, en fait, elle remonte à bien avant. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est juste un petit ajout sur cette question-là. Vous le dites, c'est la place des médias. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction médiatique, à travers la presse notamment, de la dramatisation du danger révolutionnaire, alors les Asturies en 1934, et où on grossit en fait le danger révolutionnaire. Et on y viendra à la fin. Ce n'est pas pour parler de mémoire, mais c'est vous montrer que beaucoup d'historiens, y compris avec les meilleures envies du monde, sont restés prisonniers en fait de cette dramatisation par les sources, par les médias. Donc là, il y a un vrai rôle de la presse comme caisse de résonance de la révolution est à nos portes, etc.
Oui, complètement. Et puis même un modèle allemand, qui est celui que vous avez décrit tous les trois dans Le Monde nazi et sur lequel Johann Chapoutot est revenu dans Les Irresponsables, de Alfred Hugenberg et son grand trust de presse médiatique avec son agence de presse, etc. Et bien justement, autour du journal El Debate, commence à se construire un système médiatique, alors qui n'est pas aussi vertical qu'en Allemagne, qui est plutôt horizontal, mais qui fonctionne bien quand même, et qui systématiquement transforme tout mouvement social en tentative révolutionnaire pour ses lecteurs. Et s'appuie pour cela sur le déclenchement de la violence sur le terrain par les forces de l'ordre, qui sont habituées à exercer un rétablissement de l'ordre violent, sanglant, et qui voit, à partir du début de la République, arriver au pouvoir local, à la mairie, des gens qu'ils considèrent comme des moins que rien, comme des gens qui devraient être en prison et pas à la mairie, et qui tirent. Et à chaque fois, alors il y a quelque chose d'absolument systématique, c'est, vous imaginez, donc on est en 1931, 1932, on a des ouvriers agricoles sans terre qui manifestent et qui ont faim. Tout simplement, ils ont faim, ils veulent du travail.
Ils veulent que les terres soient cultivées, qu'il y ait une moisson. Ils demandent quelquefois, comme la tradition le permet quelquefois en période de disette, aux grands propriétaires de les laisser entrer sur leur propriété et d'aller glaner sous les chênes ou d'effectuer d'autres travaux tout simplement pour avoir une paye minimum comme aumône. Ou alors, ils se mettent en grève parce qu'ils considèrent que maintenant, on a une république et que le pouvoir est de leur côté. Et ces mouvements sont en général pacifiques. Et puis, face à la garde civile, qui est une institution armée, qui n'a pas de matraque, mais des fusils, ça change quand même les choses. On ne fait pas la même chose avec des matraques ou avec des fusils. Il y a une confrontation. Et dans les rapports de la garde civile, qui sont intégralement reproduits dans les journaux de ce système médiatique, on lit « Un coup de feu est parti et la garde civile a répliqué ». Et on sait, par un certain nombre d'éléments d'enquête qui nous permettent de voir ce qui s'est passé en réalité, qu'effectivement, il y a eu d'abord des charges du feu de la part des gardes civils, et souvent d'ailleurs associé aux petits messieurs, aux fils des propriétaires, qui tirent depuis les fenêtres de la grande maison. Et ensuite s'ensuit soit une débandade, soit une émeute, et puis des arrestations, des procès en conseil de guerre, etc. etc. Et les journaux peuvent dire « c'est le début de la révolution ». Jusqu'à même quelque chose qu'on a découvert en lisant et en travaillant à partir d'une monographie, les premiers incendies d'église, par exemple à Séville, il y a des éléments qui montrent que ces incendies d'église sont des provocations réalisées par des membres de la pègre, payés par les grands propriétaires locaux, les monarchistes, qui essayent de donner à voir la révolution.
Alors là, on voit tout l'intérêt qu'il y a au lieu de certaines, on y reviendra, grandes généralités de plateaux télé qui nous parlent du passé et non pas d'histoire, l'importance des sources, c'est-à-dire comment sur des micro-événements qui peuvent avoir une importance politique de cette ampleur-là, comment est-ce qu'on reconstitue avec les différentes sources ces réalités-là. Alors, juste un point important, parce que ça nous amène aussi vers la suite, mais qui est un point de méthode. Nous, historiens français, j'ai tendance à dire on est trop jacobins, on pense tout par le cadre centraliste. Donc on a parfois la tendance à écrire par Berlin, Madrid ou autre. Et dans le livre, c'est dit dès le départ, vous dites on ne fait pas l'histoire de l'Espagne, on fait l'histoire des Espagnes. Et ça, ce sera après, mais pas de deux Espagnes, hein, de multiples Espagnes. Et vous insistez beaucoup sur l'importance des pouvoirs locaux et des caciques et autres. Comment vous avez réussi à donner cette parole à toutes les régions d'Espagne dont on connaît la grande diversité? Comment vous avez travaillé là-dessus?
Alors oui, il nous semblait important de parler de ces Espagnes et pas deux Espagnes, parce qu'effectivement, ce fait qu'il y ait deux Espagnes prêtes à s'attaquer et qui expliquerait une guerre civile inéluctable, c'est aussi une construction de la propagande franquiste, et après une construction qui est devenue bien réelle, évidemment, avec la guerre elle-même. Mais tout n'allait pas forcément advenir entre deux camps, et en regardant et en changeant d'échelle, en regardant un peu par le bas, si vous voulez, on arrive à voir d'autres réalités, des réalités qui dépendent selon les régions, industrielles ou portuaires. On pense par exemple à la Catalogne ou alors même au nord de l'Espagne avec l'industrie basque qui n'ont rien à voir avec l'Estrémadure aussi, qui sont des régions un peu plus pauvres entre les villes et les campagnes. Donc de montrer en fait qu'il y a différents contrastes. Et après, à l'intérieur de ces contrastes, évidemment, une foule de cultures politiques. On a souvent entendu dire que l'Espagne est un pays archaïque, en retard sur la civilisation, sur la modernité européenne. En fait, c'est aussi un pays très bien ancré dans les circulations transnationales. On pense aussi aux circulations politiques en particulier, et le mouvement anarchiste, qui a été typiquement considéré comme un mouvement totalement archaïque et en retard sur son temps. C'est un mouvement qui est en avance sur pas mal de questions politiques, sociales, et qui n'est pas fermé sur lui-même, qui est capable d'influencer. Moi, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est le comité Ferrer en 1909, c'est un pédagogue libertaire, donc grande influence là encore de la pédagogie anarchiste, il est exécuté sur la base de fausses accusations en raison de révolte à Barcelone, et il y a un certain Dreyfus qui a tout sauf du révolutionnaire, hein, Dreyfus, hein, qui est une grande figure, évidemment, qui est devenue une figure importante dans la vie politique française en raison des accusations qui ont été portées contre lui, et vous les connaissez évidemment, en raison de l'antisémitisme en France. Et bien Dreyfus y signe. Ça montre, si vous voulez, la perméabilité des causes des circulations. La cause espagnole est connue, on circule et on va en Amérique latine, ailleurs. Donc ça, c'est pour le côté un peu... à la gauche de l'échiquier politique, mais c'est aussi vrai à droite. Et à droite, il y a un point important, je vais laisser la parole à François là-dessus, c'est la question du caciquisme, du localisme aussi en vie politique, parce que s'il y a un appareil politique, en Espagne, la République et avant elle, la monarchie est considérée comme un tout centralisateur, la réalité du pouvoir politique et de la capacité à faire appliquer les décisions politiques localement rencontre des très fortes résistances, notamment des grands propriétaires. Et là, je laisse la parole à François.
Oui, alors c'est cacique, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un mot qui a été utilisé pour qualifier des hommes puissants localement, des grands propriétaires qui ont une grande influence sociale, qui ont une clientèle, on va dire, une clientèle politique. Et ce phénomène du clientélisme, bien sûr, il n'est pas propre à l'Espagne. Il est propre, enfin, il est observable dans tous les pays européens, de l'Italie à l'Angleterre en passant par la France. On a écrit un livre d'histoire contemporaine qu'on faisait lire à nos étudiants dans le temps, maintenant il a été remplacé, qui s'appelait « La France des notables » sur la fin du 19e siècle. Simplement, en Espagne, il y a une particularité. Il y a une particularité qui est que ce pouvoir clientélaire local est dans une situation où le pouvoir central dépend de lui. Le pouvoir central ne centralise rien. Il dépend, les gouvernements dépendent du bon vouloir et de la collaboration avec ces pouvoirs locaux, avec ces caciques, pour faire appliquer leurs décisions. Les seuls véritables représentants de l'État qui ont un lien hiérarchique et d'obéissance dû au gouvernement dans les campagnes, ce sont les gardes civils. Tous les autres doivent leur poste, justement, à l'influence sociale des caciques. Tous les autres. Même, souvent, le gouverneur civil de la province, qui est l'équivalent du préfet. Et même les gardes civils, et ça, on l'observe au début de la République, quand ils se trouvent dans une situation de conflit de légitimité entre le gouvernement et puis les grands propriétaires locaux, ont tendance à choisir les grands propriétaires locaux. Ça arrive quand il y a des consigne de modération dans la répression, ça arrive à plusieurs fois au cours de la République, et que les gardes civils ne modèrent rien du tout. Et ils ont quelquefois un aspect domestique, de domestique à tricorne. Tricorne, c'est le chapeau qu'ils portent, tout simplement parce qu'ils sont invités, en tout cas l'officier est invité au casino, c'est-à-dire à la société locale, par les grands propriétaires, il est invité à dîner, on lui permet de consulter le médecin du village alors qu'il a un salaire pas mirobolant, et si on lui permet de consulter le médecin, parce que le médecin fait partie de cette bonne société. Donc il y a vraiment cette société locale dont le gouvernement dépend. Et ça, on le voit quand le gouvernement républicain, dès le printemps 1931, prend des décrets sociaux, notamment pour soulager la vie des journaliers, des journaliers agricoles, à la campagne, obligation faite aux propriétaires d'ensemencer et de cultiver leurs terres, parce qu'ils peuvent, eux, faire la grève de la culture, eux, ils ne vont pas mourir de faim, en revanche, les journaliers, s'il n'y a pas de travail, et obligation d'employer d'abord les chômeurs du village avant d'aller chercher ceux du village d'à côté, c'est-à-dire d'essayer de casser les grèves. Eh bien, ces mesures-là, et puis aussi, il y a des comités paritaires, justement, pour essayer de régler la question des rapports sociaux. Ces mesures-là, dans plein d'endroits, elles ne sont pas appliquées. Tout simplement parce que le pouvoir local n'appartient pas au gouvernement. Si bien que la République et l'État même républicain restent en quelque sorte virtuels. Ils n'arrivent pas à atteindre le sol du pays et à faire ce qu'il veut faire, sauf dans certains endroits où eh bien, la municipalité elle a été prise par les républicains radicaux, les socialistes, etc. Mais même encore là, ces gens-là se trouvent face aux juges, aux gardes civils, etc., etc. Donc c'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente. Il faut quand même penser que l'Espagne n'a pas connu la Première Guerre mondiale. Donc elle n'a jamais eu à effectuer une mobilisation totale de tous les hommes et de toutes les ressources du pays. Mobilisation totale dont les historiens nous accordons pour dire qu'elle a été très importante dans la construction de l'État en Europe.
Alors merci, hein. Vous voyez qu'on part des questions locales et régionales en Espagne et on arrive à cette analyse de la compréhension du pouvoir. Au passage, il y a des très bonnes pages, j'ai trouvé, sur la revendication de l'installation d'un ordre après 31, mais qui a aussi une revendication de la République. C'est-à-dire, nous sommes là pour assurer une République rationnelle qui va permettre d'éviter justement la fuite dans la Révolution. Donc ça, vous voyez, ça change quand même la vision qu'on peut avoir du récit habituel de voilà, les révolutionnaires d'un côté, le camp nationaliste de l'autre. Alors ça nous amène effectivement aux événements, hein, la victoire électorale du Frente Popular. Ce sera les deux seuls mots que je dirai en espagnol ce soir. Hein. Voilà, on est bien d'accord, j'ai presque essayé. Voilà. Et puis ensuite, les événements de juillet. Et donc c'est intéressant, sur le Front Populaire, vous montrez bien que c'est une alliance électorale, qu'il n'y a pas une sorte de processus d'amalgame au départ. Et donc vous arrivez, vous l'avez dit tout à l'heure, avec ce concept de fascisation qui nous vient de Gramsci, hein, l'idée que le fascisme n'arrive pas d'un seul coup comme ça, mais se prépare. Et vous dites, voilà, le fascisme à l'espagnol. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en tant qu'historien ou même dans d'autres disciplines, il y a des moments où on aime bien perdre notre public. Et donc, années 90-2000, on a passé 20 ans à débattre de ce qui était fasciste, pas fasciste. Est-ce que les oustachis croates étaient fascistes? Bon, la réponse est plutôt oui. Hein. Donc, moi, en vous lisant, avec en tête ces vieux débats de, bon, il n'y a que deux régimes fascistes, c'est l'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie. Vous, aujourd'hui, dans l'historiographie espagnole, qu'est-ce qui est fasciste? Est-ce que c'est la phalange, le régime franquiste à son début, la suite? Comment on l'utilise, ce terme-là? Est-ce qu'il est pleinement accepté? Je pose aussi la question, parce qu'aujourd'hui, ce terme, vous le savez, peut-être a raison, il connaît une inflation massive par rapport aux menaces qui pèsent sur nous. Donc, j'aimerais bien un petit point sur, dans l'espace espagnol, comment on l'utilise, ce terme-là? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il désigne toute la situation ou pas?
Alors, on essaie de se départir un peu de ce thème. Alors, il existe, hein, déjà, je vais revenir comment on a un petit peu pris les choses dans cet ouvrage. Il existe, et dès l'avènement de Mussolini, il y a une influence, et tel point que Miguel Primo de Rivera, qui est le dictateur sous la monarchie, le père du fondateur du parti fasciste sur lequel je vais revenir, le roi l'appelle « mon Mussolini ». Donc il y a une influence, hein, du fascisme italien. Il essaye d'installer un régime corporatiste qui serait semblable. Il n'y parvient pas. Voilà. Il y a la culture viriliste fasciste imprègne très vite les milieux d'extrême droite à cette époque en Espagne, dans la monarchie aussi. Il y a des images, hein, des dignitaires de la couronne, un torse nu comme ça qui fait beaucoup penser à Mussolini. Bon, ça c'est une chose sur l'influence de ce que peut représenter le fascisme, en plus des formations, des voyages qu'on peut effectuer. Et après, en Espagne, il y a eu la formation de plusieurs partis fascistes, dont le plus important est la Falange, clairement un parti fasciste qui a été fondé par José Antonio Primo de Rivera, le fils donc du dictateur dont je viens de vous parler. Là, il s'agit d'un parti, mais ce qui est intéressant, c'est que ça reste un petit parti, notamment en comparaison de la CEDA ou d'autres organisations, des carlistes. Et plutôt que s'engager dans la querelle des étiquettes, fasciste, pas fasciste, alors lui, il est ultranationaliste, mais moins militariste, lui, etc., on arrive toujours à en exclure, surtout dans un débat sur ce qu'est le fascisme, qui est en fait très écrasé sur le nazisme à la fin de la période, en plus. Et qui ne considère pas que le fascisme, par essence, est un mouvement d'amalgame et qui est capable de justement faire sien des différences. Des différences locales, de composer, de se recomposer. Voilà, c'est une des caractéristiques. Et nous, on a préféré parler aussi d'un processus de fascisation pour expliquer comment, en Espagne, et ça a été le cas aussi ailleurs, des organisations plutôt minoritaires, et c'est le cas de la Falange, ont réussi, par leurs pratiques et par leurs valeurs, à entraîner d'autres forces politiques, à catalyser, c'est-à-dire que le fascisme, au sens général du terme, a été quelque chose qui a catalysé des éléments qui étaient déjà là avant. L'ultranationalisme, l'Espagne était passée par une crise avec la perte des dernières colonies à la fin du 19e siècle, et avait été traversée une crise de la régénération de la race espagnole, de remettre la virilité de l'homme espagnol. Enfin, il y a des choses qui existaient déjà, et que ce mouvement de fascisation a emporté. Et ensuite, ça s'est concrétisé en Espagne par une instrumentalisation, on en a parlé, de la violence, de l'anticommunisme dans le débat politique, par de l'agitation propagande, des choses qu'on voit ailleurs, en Italie, en Allemagne, c'est-à-dire vous allez vous confronter à des organisations communistes, anarchistes, confrontation qui peut créer des morts, y compris dans vos rangs, et là, vous faites un culte du martyr, ça peut faire penser malheureusement à l'actualité, hein, et donc vous pouvez, à partir de là, donc instrumentaliser le désordre. Ça, c'est un point très important pour réclamer de l'ordre. Et ce qu'on voit sur ce terrain espagnol, c'est que petit à petit, il y a un effet d'entraînement, et la CEDA, qui est un parti assez complexe parce qu'il dépend d'énormément d'organisations, et notamment Gil Robles ou les jeunesses du parti, font pleinement le jeu de cette dynamique. Gil Robles, lui, va à Nuremberg, il est comme d'autres, impressionnés par ce qui s'y passe. Les jeunesses sont aussi captées par ce que fait la phalange dans la rue, cette agitation propagande, c'est exaltation de la violence. Et eux-mêmes vont, alors que certains avaient fait la voie de l'accidentalisme, c'est-à-dire la République est un accident, on veut la monarchie, on va quand même faire le jeu des urnes et on va voir pour sortir, comment sortir de cette République. Et bien d'autres se disent non, on va prendre l'autre voie. Et l'autre voie, c'est la violence. Et comment la violence peut s'exprimer, c'est aussi à travers ce processus de fascisation, qui est un point important, parce qu'on pourra peut-être y revenir, mais le coup d'État, on parle souvent d'un coup d'État militaire, évidemment, c'est un coup d'État organisé, orchestré par les militaires, mais il y a tout un versant civil qui a parfois été un peu négligé, au moins en France, dans l'historiographie.
Oui, pour compléter... Ce qui nous intéressait, c'est effectivement d'arrêter avec la querelle entomologiste des ismes et de parler de processus. Et de parler d'un processus qui ne soit pas seulement centré sur le destin du parti qu'on reconnaît comme fasciste. Il y a un historien espagnol, catalan, Ferran Gallego, dont s'est inspiré, et qui dit le problème quand on essaye de parler de fascisation à partir du parti qu'on a reconnu comme fasciste, c'est que on ne considère que lui, et puis on a tendance à chercher dans ce parti, dans ses origines, tous les éléments qui se sont développés après, et donc d'attribuer à ce parti finalement de façon téléologique tous les éléments qu'on voit fleurir quand il est au pouvoir. Et c'est pour cela qu'il faut s'intéresser aux configurations politiques et à l'amalgame que tout cela représente, amalgame qui a une part d'idéologie, c'est-à-dire que ces gens-là travaillent, il y a un véritable travail idéologique pour s'entendre, mais qui est surtout un amalgame réalisé dans la mobilisation, et dans la mobilisation d'urgence, liée à un sentiment d'urgence face à la révolution. Alors évidemment, on l'a expliqué, ce sentiment d'urgence, ça se crée. Ça se crée. Et on parle même au printemps 36 d'un complot communiste pour prendre le pouvoir, etc., etc. Ce sentiment d'urgence se crée. Il faut surtout le créer parmi les officiers pour qu'ils participent au coup d'État et pas se rater comme en 1932. Et cet amalgame, effectivement, il s'opère dans la mobilisation, en particulier au printemps 1936. C'est-à-dire que cette fascisation commence à cristalliser au printemps 1936. Pourquoi ? Parce que la voie électorale est considérée comme maintenant une voie sans issue. Et une bonne partie des militants de la CEDA, les jeunesses de la CEDA, les jeunesses carlistes, cette organisation monarchique traditionnaliste d'une branche mineure des Bourbons, tout le monde converge autour de la même chose. Et quand le coup d'État se produit en juillet 1936 et qu'il rate et qu'il rencontre cette résistance formidable qui va durer presque trois ans, et qu'on va appeler guerre d'Espagne, eh bien, la mobilisation politique devient une mobilisation politique de guerre. Elle l'était déjà un peu, puisqu'on utilisait l'idée d'ennemi intérieur, l'idée de violence. Et c'est là qu'elle se déploie avec toute sa force, dans une conjugaison très, très serrée de la partie civile et de la partie militaire, et même de l'Église catholique, qui est au cœur de cette mobilisation, qu'elle qualifie de croisade. Et donc, la voilà, la fascisation se réalise enfin dans cette mobilisation, et elle se déploie pendant ces trois ans, et elle continue par la suite dans la prolongation de la guerre pendant une dizaine d'années.
Merci pour cette réponse, et qui, je dois le dire, faisait pas à moi de juger, mais est très très convaincante. C'est vrai que si on se situe sur une seule formation pour faire des comptages, hein, on va pas vous agonir avec la garde de fer roumaine, etc., mais on finit toujours par rentrer dans des cases et pas voir le processus dynamique. Alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le livre, hein, notamment des choses très intéressantes sur la place de l'Église. Aussi, sur ce que vous venez de dire, c'est qu'une fois que le conflit est lancé, il va y avoir une force d'amalgame à droite et à gauche, hein, de chacun des camps, qui sont obligés de s'entendre, alors qu'au départ, il y a plutôt quand même une diversité, mais de chaque côté, la force du conflit est fait que les gens sont obligés de s'entendre et que les deux Espagnes, d'une certaine manière, naissent dans la violence. Donc tout ça, c'est dans le livre. Il y a aussi l'idée que, voilà, vous le lirez, on va pas pouvoir résumer 400 pages en une heure. Un élément qui est évident, mais que j'ai trouvé très réussi, c'est que la guerre d'Espagne, on la connaît aussi, parce que c'est un conflit national, mais c'est un conflit international. Et là, bon, je parle pour vous qui êtes dans votre temps. Vous avez bien vu qu'à chaque fois, peut-être pour ceux qui se souviennent des révolutions arabes ou de la guerre en Syrie, des autres conflits, on a cette ombre ou ce souvenir des brigades internationales, des gens, ou de la guerre en Ukraine, des gens qui prennent les armes pour aller aider un autre pays dans d'autres contextes. Et nous, la dernière mode en histoire, c'est l'histoire globale. C'est-à-dire écrire, voilà, toutes ces choses qui circulent, tout ce qui n'est pas pleinement juste dans un seul territoire. Donc là, on voit qu'évidemment, ça marche très bien. Et peut-être, voilà, Pierre Salmon, vu que vous avez écrit votre livre sur armée, l'Espagne révolutionnaire, comment vous avez fait pour aborder ça, ce côté l'Espagne mêle l'Europe, c'est-à-dire l'intégralité des interventions? On connaît évidemment le côté tragique, Guernica, l'intervention des pays fascistes. Comment vous... Moi, je connais un peu les Allemands, je connais que les Allemands qui sont allés vers l'Espagne. Voilà, Hans Beimler, Willy Münzenberg, ça parle qu'à moi, c'est très intéressant. Et voilà. Mais comment vous avez écrit ça pour restituer ce côté international et global?
Merci pour cette question. C'est une question riche. Je vais essayer d'être synthétique. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de le voir. Déjà sur la chronologie et aussi sur cet aspect relationnel. Et enfin, sur l'échelle. Est-ce qu'on parle d'État? Est-ce qu'on parle d'individus? Sur la chronologie, d'abord, pour vous dire que l'Espagne, je l'ai dit avec le comité Ferrer, mais elle n'apparaît pas sur la carte en 1936. Il y avait déjà des circulations, des militants qui allaient en Espagne, d'autres causes, si bien que quand la guerre d'Espagne survient, on réactive des comités qu'on avait déjà fondés, des relations. L'interpersonnel est très important et ça s'inscrit aussi pour certains dans une continuité. Et quand je parle de continuité, il y a aussi des exilés, par exemple des exilés allemands, antifascistes, des exilés italiens, polonais, qui voient dans l'Espagne une autre bataille contre le fascisme, et c'est un peu leur bataille. Donc on a essayé on a mis dans l'ouvrage ces trajectoires personnelles aussi pour expliquer en quoi l'Espagne est une cause qui est mobilisée par des individus qui arrivent aussi avec leur propre lutte, parfois avec des phénomènes de décalage. Vous projetez sur l'Espagne votre propre sentiment, vos propres causes politiques, si bien que vous croyez voir quelque chose et que quand vous arrivez, c'est pas exactement l'Espagne que vous attendiez. Aussi, c'est pas forcément le combat. Certains arrivent pour faire la révolution en Espagne. En Espagne, d'autres leur disent non, mais en fait, on va pas faire la révolution, pas comme ça. Là, on a une priorité, c'est plutôt le combat plutôt militaire. Voilà, il peut y avoir des tensions, des accrochages, en tout cas des incompréhensions. Voilà, je résume à grands traits, hein, mais ça, c'est un point sur ces mobilisations politiques. Ensuite, ces mobilisations, elles ne sont pas seulement faites de trajectoires et d'engagements concrètement. Il y a aussi la question de la non-intervention qui est absolument fondamentale. Parce que vous le savez, ça c'est un peu un des lieux de mémoire les plus importants sur la guerre d'Espagne. Quand on parle de guerre d'Espagne, on pense toujours à la non-intervention, à ce refus d'engager une aide d'État à État. À partir de la non-intervention, il y a un embargo sur les hommes, les armes. Vous avez très bien compris que les hommes, les volontaires en tout cas, peuvent circuler. Et vous savez que l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie envoient aussi des troupes pour soutenir les insurgés franquistes. Donc cette non-intervention ne fonctionne pas, mais elle cadre forcément les types de soutien. D'un côté, l'insurrection continue à franquiste, l'insurrection franquiste continue à recevoir des soutiens d'État à État, donc des soutiens très importants. On n'aide pas gratuitement, mais on aide de manière massive. Et d'un autre côté, les alliés naturels, considérés comme naturels de la République espagnole, eux postulent pour une autre formule, la non-intervention. Donc, la France et l'Angleterre. Et cette France, notamment, parce qu'on a souvent dit que c'est un projet britannique, franco-britannique au meilleur des cas, en fait, c'est une initiative franco-française. Il y a plein de travaux très sérieux qui l'ont montré. Je pense à Renaud Meltz ou à Nathan Rousselot qui ont bien montré comment c'est l'appareil diplomatique français et ensuite Léon Blum qui ont proposé cette formule. Alors il faut savoir pourquoi. Alors évidemment, il y a une question d'une pression britannique. Évidemment, il y a une peur d'un conflit international. Il y a également la peur de retombées intérieures. Si on aide l'Espagne républicaine, est-ce qu'on risque pas à nouveau, 6 février 1934, un coup d'État fasciste en France? Mais il y a aussi autre chose qu'on a essayé de soulever dans cet ouvrage, c'est la peur. La peur d'une sale guerre. Parce que quand on est en France dans l'été 1936, l'image qu'on a de l'Espagne, c'est l'image aussi de situations bien réelles, mais qui sont aussi instrumentalisées par la presse. D'abord, les insurgés franquistes qui travaillent beaucoup dessus et qui le faisaient même avant la guerre, et ensuite relayés par la presse de droite et d'extrême droite en France, bah, c'est les tueries. Aider l'Espagne, c'est les viols de bonnes sœurs, c'est les massacres de curés. Est-ce que vous voulez, vous, une contagion révolutionnaire ? Et cette situation, cette contagion révolutionnaire, elle fait peur. En France, on a un gouvernement de Front populaire et quoi qu'en dise la propagande à l'époque, on n'est pas du tout sur une situation du point de vue gouvernemental révolutionnaire du tout. On veut canaliser ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez concernant la République qui veut de l'ordre. On canalise. Évidemment, on veut du changement. Évidemment, on veut de l'émancipation. On veut des droits, mais on veut les canaliser. C'est pas du tout fait sans contrôle. Si bien que ce qui est intéressant à relever, c'est que on connaît ensuite le relâchement de la non-intervention, la France qui ferme les yeux, voire organise à partir d'un certain moment la contrebande d'armes. Mais ça, c'est une solution par défaut. Les Républicains ne demandent pas ça. Ils demandent une aide d'État à État. Et cette aide, elle arrive surtout quand on a l'image d'un rétablissement de l'ordre en Espagne, que c'est une République, ça y est, que la Révolution, c'est fini. Là encore, avec un décalage sur la situation réelle. Et dans ces conditions, bah, la République, et ça, André Albéniaz l'a très bien montré, bah, se tourne vers l'URSS. Là encore, c'est pas du tout un complot bolchevique. Bah, c'est une solution de la dernière chance, l'URSS. Et l'URSS elle-même n'avait pas envie de s'impliquer dans ce conflit. En tout cas, ça pousse au niveau des centrales, le PCF pousse, l'international communiste, mais au départ, s'engager dans un conflit aussi lointain, aussi incertain, c'est pas l'envie de Staline. Si bien que la République envoie de l'or, achète des armes en URSS, peut en acheter grâce à l'or qui a été envoyé depuis d'autres centrales dans d'autres pays. Mais c'est un soutien qui n'est pas un soutien durable, pas gratuit non plus, qui ne va pas s'en retomber politique d'ailleurs, qui va coûter cher aussi à la République parce qu'elle aurait souhaité bien plus, elle aurait souhaité un véritable soutien international comme elle aurait pu l'espérer.
Alors effectivement, quand on a lu Orwell et Hommage à la Catalogne, on sait un petit peu ce que fait le NKVD en Espagne aussi. Ce qui m'amène à, encore une fois, on ne peut pas traiter tous les aspects, mais à un point central, on essaie de parler des points de débat les plus cristallisés de ces dernières années. Et donc, on vient de l'évoquer, la violence. Alors j'avoue, mais bon, j'avais lu Bernanos hein, à l'époque et j'avais été évidemment très, très impressionné par cette lecture, Les grands cimetières sous la lune. Et j'avais vu aussi ce livre plus récent, d'historien cette fois-ci, Paul Preston, Guerre d'Espagne, une guerre d'extermination, 2016. Ce qui effectivement était un titre choc. Alors est-ce que vous pouvez me faire un point là-dessus ? C'est-à-dire parce qu'on entend évidemment tout et malheureusement son contraire. La part de cette violence, vous parlez d'une guerre industrielle, c'est intéressant, c'est-à-dire une guerre qui se mène avec les outils de la guerre moderne. Et effectivement, comment cette, malheureusement ces formes de violence, elles circulent ? Comment vous avez abordé ces sujets-là ?
Merci. Alors traditionnellement, les questions de la violence pendant la guerre ont été justement le théâtre de la mise en parallèle des deux camps, d'une équivalence morale des deux camps. Et évidemment, cette mémoire fondée sur l'équivalence morale et même l'équivalence des chiffres est quelque chose qui a été produit par le régime franquiste, qui a eu 40 ans pour le produire, pour l'ancrer dans les consciences, etc. Le premier travail des historiennes et des historiens démocrates a été de compter, de voir ce qu'il en était. Et aujourd'hui, on a des chiffres très, très consolidés qui font consensus, qui sont que les franquistes, dans leur camp, alors qui grandit, qui finit par occuper toute l'Espagne, ont tué entre le 18 juillet 1936 et le 1er avril 1939, 120 000 personnes à l'arrière du front. Et que, du côté républicain, c'est 50 000. Mais il faut ajouter le fait que les franquistes, après le 1er avril 1939, fusillent encore 30 000 personnes. Et ces 30 000, c'est un chiffre qui a tendance à croître, à grandir. Parce que parmi les modes de comptage ont été faits, par exemple, en voyant les registres de décès. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas dans les registres. Parmi les dizaines de milliers de restes humains qui gisent encore dans des fosses communes en Espagne, eh bien, il y a beaucoup de disparus, des gens qui ne figurent
nulle part. Et il faut ajouter aussi les gens morts pendant la grande famine de 1941-42, il y a eu des travaux très récents dessus, qui est une famine qui a été entraînée par la politique du franquisme et utilisée par le franquisme pour avoir la paix. Quand on a faim, on ne réclame pas. Et cette famine a fait 200 000 morts en Espagne. En particulier chez les pauvres, chez les enfants, chez les personnes âgées et chez les prisonniers et dans les camps de concentration. Donc voilà pour les chiffres. Mais à partir des années 90, les historiennes et les historiens sont intéressés aussi au sens de cette violence, aux modalités opératoires. Dans le camp républicain, cette violence, elle est très décentralisée. Elle est le produit de groupes locaux, même s'il y a des circulations de groupes qui vont assassiner ici et là. Et elle est liée aussi et surtout à l'indétermination du front pendant très longtemps. C'est-à-dire que le front circule et on a remarqué en regardant de très près qu'une bonne partie des morts sont liées justement à cette idée que voilà, on est tout près du front. L'ennemi est là, bon, on le tue, parce que sinon il est dans notre dos. Et que cette violence, elle est combattue dès le départ par les instances politiques, non seulement le gouvernement républicain, non seulement des partis politiques qui sont hostiles, puisqu'ensuite cette violence a été mise sur le dos, sur le compte de la Révolution. Non seulement par des partis hostiles au fait de faire une révolution, mais aussi à l'intérieur même des organisations révolutionnaires, je pense à la CNT, la Confédération nationale du travail, parmi les rangs des anarchistes, il y a pas seulement des déclarations, mais un combat pour faire cesser cette violence. De l'autre côté, et c'est une violence qui répond vraiment au fait que voilà, l'adversaire politique de la veille est devenu un ennemi, je ne le veux pas dans mon dos, et c'est essentiellement ça. De l'autre côté, la violence est orchestrée, contrôlée en permanence. C'est-à-dire que même les massacres opérés par les milices de la Falange le sont parce qu'ils sont autorisés par les militaires à tous les niveaux. Et de l'autre côté, cette violence répond à un objectif effectivement exterminatoire. Il s'agit d'éradiquer, d'exterminer, et ils emploient ces mots-là, l'anti-Espagne. L'anti-Espagne, c'est l'Espagne qu'ils appellent rouge. C'est quoi rouge? C'est bien évidemment les communistes, ils ne sont pas très nombreux au départ quand même. Les anarcho-syndicalistes, les syndicalistes en général, les francs-maçons, les libéraux. L'ennemi, c'est le libéralisme. C'est le libéralisme politique. Tout ça, c'est rouge et tout ça, il faut l'éradiquer, il faut l'exterminer. Et on le fait par les armes et on le fait aussi par la rééducation. C'est-à-dire que plus de 100-120 camps de concentration qu'il y a en Espagne en 1940 servent de camps de triage pour savoir, les gens sont acheminés ensuite vers des prisons. L'Espagne devient une immense prison. Et dans ces prisons, on fait un autre tri. Il s'agit de savoir si les gens sont réformables, si l'ennemi doit être éliminé, et à ce moment-là, on fusille, ou peut être rééduqué s'il peut y avoir une rédemption, s'il peut être converti, puisque cette guerre est une croisade. Et donc, on va essayer de les convertir, de les reconvertir, avec un travail, alors par le travail forcé, et il y en a des dizaines de milliers qui meurent, on les appelle les esclaves de Franco. Il y en a pas mal qui sont morts en construisant le monument à la gloire des morts franquistes près de Madrid, dans la vallée qu'on appelle Cuelga Muros aujourd'hui, par le travail et par la foi, par une instruction religieuse assurée par des chapelains de prison qui sont très forts pour détecter si vous avez vraiment la foi ou si vous faites semblant. Ils sont forts, c'est leur travail. Et si vous ne vous comportez pas bien, votre famille qui souffre déjà de l'humiliation, de la pauvreté, à qui on a tout pris au village, eh bien, elle va souffrir encore plus. vos enfants qui sont chassés à coups de pied des files d'attente pour le lait qui vient d'Argentine, eh bien, ils vont souffrir encore plus. Dans le sens inverse, si votre famille ne fait pas tout pour plaire à l'occupant, puisque c'est vraiment une occupation, eh bien, le prisonnier peut être battu, peut être tué, on lui refuse l'alimentation, etc., etc. C'est pour ça qu'on parle d'une immense prison. C'est un véritable projet d'ensemble qui ne s'arrête que quand l'ennemi a disparu. C'est-à-dire l'ennemi comme communauté imaginée. Et quand il a disparu, il y en a, c'est l'extermination d'une communauté. Beaucoup d'individus sont morts du fait de cette extermination et les autres ont été transformés. Donc c'est un projet véritablement totalitaire qui, dès le départ, fonctionne avec des listes, qui produit des millions et des millions de fiches et un travail systématique par plusieurs institutions de police, un univers, un archipel de camps de concentration et de prisons. Et voilà, c'est ça que nous a apporté l'historiographie du franquisme depuis 20 ans. Une historiographie qu'on ne connaît pas en dehors de l'Espagne, en particulier en France, et qui change complètement la donne.
Et effectivement, à la lecture, hein, quand vous parlez de l'Espagne comme prison au moment où la dictature s'installe, j'avoue, à titre personnel, quand j'ai vu les taux de mortalité dans des prisons qui ne sont pas considérées comme des camps où on tuerait les gens, on est censé les faire travailler, c'est des taux qui sont effarants. C'est-à-dire même dans d'autres systèmes concentrationnaires, j'en avais pas vu des aussi importants.
J'oublie un aspect qui vous donne le sens de cette violence. On a beaucoup travaillé sur le sens de cette violence. La violence de genre. La violence exercée en particulier contre les femmes, parce que la République a fait des femmes des citoyennes, avec des garanties, pas seulement des droits garantis, inscrits dans la Constitution, le droit au divorce, et pendant la République, aussi le droit à l'avortement, le droit de vote, et le droit à l'instruction. Donc les femmes sont non seulement des rouges, les femmes républicaines, donc punies comme telles, mais aussi comme femmes, parce qu'elles sont sorties du rôle de genre traditionnel. Et on les fait rentrer, non seulement par l'assassinat, par la prison, on les enferme en prison avec leur bébé qui meurt, qui tombe comme des mouches, hein, et aussi par le viol systématique, la tonte systématique. Et je me souviens de cette scène que m'avait décrite une collègue qui travaillait sur cette violence de genre, en particulier sur les tontes, et qui lui avait été rapporté par d'anciennes victimes. D'une femme promenée nue dans le village et rasée, à qui on a fait boire de l'huile de ricin, et qui, humiliée par cette promenade, la diarrhée, etc. Alors, jusque-là, c'est du classique. Ça arrive très, très souvent. À qui on a tatoué une croix gammée sur le front, on l'oblige à nettoyer le parvis de l'église, sur lequel on a répandu du gros sel, après lui avoir entaillé les genoux. Voilà la répression complète, atroce. C'est ça le franquisme.
Alors effectivement, quand on parle de fascisme, c'est pas juste dans les livres, c'est aussi dans la vie des gens, et c'est important, même si c'est parfois dur à entendre, d'affronter en fait ces réalités historiques. Ce qui m'amène à la conclusion dans les 5 minutes qui nous restent, du fait que ce sujet-là aujourd'hui, et alors avec deux historiens qui sont pas rentrés sans appuyer sur le sujet, mais au même moment dans la carrière, on voit bien que ces derniers temps, il y a un révisionnisme très puissant autour de ces questions-là, un récit franquiste qui se réaffirme, une sorte de retour de bâton. Et j'en veux pour preuve le fait que, donc dans votre travail quotidien, confronté à cette instrumentalisation du passé, le grand historien, vous sentez l'ironie, Jean Sevilla, a dit de votre livre qu'il était, je cite, dans une recension récente, qu'il était un pamphlet antifa déguisé en livre d'histoire. Voilà, donc ça c'est dit, on en a parlé avant, j'aurais pas fait cette citation sans consulter les auteurs, mais on voit bien ici que là, on est face à des contre-offensives qui veulent réaffirmer le discours franquiste, faire circuler des fake news. Comment vous positionnez tous les deux, rapidement, dans les 5 minutes qui restent face à tout ça? Il y aura des questions par la suite, hein. Ça veut dire quoi aujourd'hui être sur le feu de ces critiques-là, des critiques politiques, face à des gens qui veulent instrumentaliser le passé?
Alors merci, c'est vrai que vous en savez aussi quelque chose, je pense, vu vos sujets d'études. Et le journal en question, là, c'était Figaro Magazine. Alors, il y a quelque chose qui est remonté en Espagne depuis le début des années 2000, en fait, avec le phénomène d'ouverture des fosses communes, avec une vraie réclamation pour la dignité, pour l'exhumation des corps, pour des lois. Ça a été accompagné en partie par la loi, hein, plusieurs lois de mémoire historique. Et ça a aussi donné lieu à un backlash, c'est-à-dire un retour en arrière de l'autre côté de l'échiquier. Qui est politique, y compris dans des partis traditionnels comme le Parti populaire, hein, qui est revenu un peu à une posture un peu antérieure à celle qui était la sienne au début des années 2000. Ça, c'est un peu pour le contexte, très rapidement, on pourrait en parler pendant une heure. Mais depuis quelques années, notamment sous l'effet de réseaux sociaux et d'un mécanisme, on parle d'un retour du fascisme et aussi aux États-Unis, en France ou ailleurs, ça circule, on échange. Et accompagné de ça, toute sorte d'écrit, là, ça a été, on pourrait juste qualifier ça d'un écrit parce qu'il y a des mots, mais leur sens, on s'interroge dessus, de fake news. Et là, c'était le cas c'est intéressant avec le papier de Jean Sévillard, peut-être pas s'attarder dessus, mais il reprend, si vous voulez, en quelques mots, la propagande franquiste, vraiment franquiste. C'est-à-dire des choses pourtant qui sont complètement à rebours de l'historiographie. On ne parle pas d'historiographie de droite, de gauche. On parle de travaux sérieux sur des sources comme quoi l'Espagne était en proie à un coup d'État communiste, comme quoi en fait le coup d'État était la mort de Calvo Sotelo le 13 juillet 1936 était fondamentale, si on le comprend bien, pour ce déclenchement du coup d'État. Donc qu'est-ce qu'on fait de la préparation et de tous les ordres donnés pour le coup d'État les mois après cette ou comme quoi, si Franco n'avait pas gagné, on aurait en Espagne une dictature bolchevique. Enfin, c'est complètement un rebours, si vous voulez, des travaux les plus sérieux. Et on reprend au meilleur des cas la propagande officielle du régime durant la guerre froide. Et donc, ce faisant, on se rend compte qu'il y a des personnes qui s'assoient totalement sur ce qu'est le travail scientifique. La guerre d'Espagne, ce sont des milliers d'ouvrages très sérieux, basés sur des sources qu'on a lues, documentées, citées. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène de retournement, si vous voulez, où ce travail sérieux sur des faits incontestés fait qu'on est qualifié, et d'autres, d'idéologues, en fait. Donc c'est assez surprenant et c'est vrai qu'on a lu ces critiques de Jean Sévilla, ça nous a même fait un peu sourire en fait d'être mis dans cette catégorie parce que c'était pas du tout notre démarche. Et notre démarche, j'insiste, je vais laisser la parole à François, c'est une démarche vraiment scientifique, historienne, empirique, sur les faits, et pas du tout ce qui nous est reproché.
En conclusion.
Oui, en conclusion, effectivement, il faut voir ça à l'échelle mondiale. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a encensé ces dernières années un livre qui s'appelle Inhumans, Les Inhumains, qui a été écrit par un idéologue MAGA et qui parle pas mal de Franco et de la guerre d'Espagne et qui dit ça, c'était bien, c'était une vraie croisade. Il faudrait faire ça, et il faudrait faire ça parce que depuis 200 ans, depuis la Révolution française, les rouges, les inhumains, essayent d'en finir avec l'humanité, et il faut les exterminer. Il faut les exterminer, ces inhumains. Et ce livre, en sens, c'est drôle parce que depuis les États-Unis, on se dit l'Espagne, c'est loin. Non, il utilise la question de l'Espagne pour actualiser, si vous voulez, ce projet. Et on connaît l'anti-intellectualisme puissant, la haine du savoir qui règne dans ce mouvement MAGA. Je crois qu'on a aussi affaire à ça, à cet anti-intellectualisme de gens qui peuvent parfaitement s'asseoir sur des décennies de travaux de recherche, tout simplement pour des raisons politiques.
Alors François Godichaud, Pierre Salmon et on pense à Mercedes Yusta, merci beaucoup pour cette guerre d'Espagne et pour cet entretien.